explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. C'est l'histoire d'un pilote de ligne qui, après avoir effectué 9 millions de kilomètres dans le ciel pour relier les aéroports du monde entier, a réalisé qu'il n'avait jamais réellement voyagé. Alors notre pilote, François Suchel, a décidé de se poser pour éprouver le terrain et aller à la rencontre des autres. C'est ainsi qu'en 2010, il est parti à vélo de Canton, en Chine, pour rejoindre Paris. Pendant 8 mois, il a pédalé à travers des reliefs et des paysages qu'il avait fois survolé. Plus récemment, en septembre 2017, il s'est lancé dans une traversée de l'Himalaya en courant et en marchant, sans assistance, avec un petit sac à dos. Un trail de 2500 km de Dharamsala à Katmandou, en passant par le Zanskar, les sources du Gange et le massif mythique de l'Annapurna. Un défi physique et psychologique, mais surtout une aventure humaine et spirituelle qu'il raconte dans un livre intitulé « Liberté, foulée, fraternité » qui vient de paraître aux éditions Glénat. Cet après-midi, François Suchel nous emmène au pas de course à travers l'Himalaya et vient nous dire ce que ce voyage à hauteur d'homme lui a appris. Et en fin d'émission, nous verrons comment se dépayser sans partir très loin avec l'auteur de Guide de voyage, Jean Typhon. Voilà pour notre feuille de route aujourd'hui. Cette émission est réalisée par Hélène Couillum-Jean et préparée par Claire Tesser avec à la technique Donatien Cahu.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
On redescend la vallée du Gange, depuis Gaomuk, les sources proprement dites, jusqu'à Gangotri, en Himalaya. Bon, on est quand même à 3007, hein, donc ça pompe un peu de jus, mais ça va, super. Avec ce décor de gorge, et entouré par des hauts sommets qu'on voit là-haut.
Bonjour François Suchel.
Bonjour.
Nous étions à l'instant avec vous dans la vallée du Gange, en petite foulée. C'est votre téléphone portable qui enregistre, car vous voyagez particulièrement léger pour ce trail de 2500 km à travers l'Himalaya. À ce moment de votre aventure, là dans la vallée du Gange, vous aviez déjà combien de kilomètres dans les jambes ?
Un peu moins de 1000 km, je pense.
Ouais. Donc c'était à peu près à mi-parcours, il en restait encore 1500. Ouais,
c'est ça.
1500 km. Alors cette vallée du Gange, où vous vous trouviez, à quoi elle ressemble ? Décrivez-nous l'endroit.
Bah, la partie où là je commence à courir avec Marianne, donc, puisque c'est un moment où ma femme Marianne me rejoint. C'est vraiment près des sources du Gange proprement dit, donc c'est un décor de cimes acérées, avec sur la droite un sommet un peu mythique qui s'appelle le Shivling, qui ressemble un peu à notre Cervin, et cette langue de glace qui voilà déverse ça ressemble à un gros torrent en quelque sorte hein, à cet endroit-là. Et puis 18 kilomètres plus bas, il y a le fameux temple de Gangotri, qui est un des lieux sacrés de pèlerinage hindouiste. Et donc voilà, on est tout de suite dans le bain de cet Himalaya spirituel et en même temps vertigineux. Mmh. Voilà, c'est vraiment un endroit très spectaculaire.
Alors, tout au long de votre traversée de l'Himalaya, vous avez vu des paysages très différents. Hein. Ça varie énormément pendant ces 2500 kilomètres.
Oui, ben complètement. Surtout que je suis d'abord parti vers le nord, donc vers le Zanskar et le Rupchu, où là, on est plus... donc, je franchis ce qu'on appelle la chaîne du Grand Himalaya, proprement dit. Et donc, à l'abri de la mousson, au nord de cette chaîne, on est sur le plateau tibétain, donc dans des paysages plutôt qui ressemblent un peu à des collines, mais sauf qu'on est à 4000 ou 4500 mètres d'altitude, dans un air pur et en même temps vivifiant.
Ouais.
Et puis ensuite, je suis revenu par les cols historiques, un col qui s'appelle le Parangla, et qui permet de revenir dans la vallée du Sutlej, qui est un des grands fleuves de l'Himalaya. Donc revenir sur l'arc himalayen proprement dit, que j'ai ensuite longé vers l'est, jusqu'à Katmandou. Donc là, on est dans des régions beaucoup plus vertes. Mais effectivement, c'est très varié.
Oui, c'est ça, hein, des glaciers, des déserts, de la jungle, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez sur le parcours. Alors vous êtes parti de Dharamsala pour arriver à Katmandou. Ce parcours, vous l'avez choisi bien précisément, pour quelle raison ?
Alors, je suis attiré par la philosophie bouddhiste. J'avais envie de découvrir l'Himalaya que je ne connaissais pas. Et donc, Dharamsala, c'est le siège du gouvernement tibétain en exil. C'est là qu'habite le Dalai Lama.
Que vous n'avez pas rencontré.
Que j'ai pas rencontré, que j'ai cru rencontrer dans l'avion. Ça a été assez rigolo d'ailleurs, cette petite séquence de rêves. Je dis au début de mon livre, l'avion pays des rêves.
Ouais. Vous croyez qu'il est à bord et en fait c'est un autre.
Je crois qu'il est à bord, je me fais bénir, etc. Et en fait c'est un gourou bouddhiste, mais c'est pas du tout le Dalai Lama. Donc ça commençait bien.
Ouais.
Et voilà, mais cette Inde et ce Népal que j'ai traversé, c'est vraiment des endroits spirituels imprégnés de spiritualité. À chaque col qu'on passe, dans les parties hindouistes, il y a les tridents de Shiva, et puis dans les parties bouddhistes, il y a ces drapeaux tibétains qui voilà traversent comme ça le col et qui flottent au vent. Donc ce sont des endroits qui sont imprégnés de spiritualité et j'ai eu aussi à cœur au cours de ce voyage de m'imprégner de cette philosophie et de la découvrir.
Ouais, alors voilà. On aura l'occasion évidemment d'en parler hein, de cette philosophie bouddhiste. Ces paysages correspondent bien à votre géographie intime, c'est ce que vous dites en reprenant cette expression de Michel Onfray dans son essai sur le voyage. Il dit « chacun possède sa géographie intime, héritée de son enfance, c'est votre cas ».
Oui, complètement. Alors, moi, je suis né en Afrique, donc c'est vrai que c'est des paysages très différents. En Afrique équatoriale, au Cameroun, où là, on est plutôt accablé par la chaleur, et par l'humidité, par les pluies tropicales. Mais il y a ce parfum de l'ailleurs, peut-être, qui m'a bercé dès mon enfance. Et c'est vrai que j'ai toujours eu l'âme voyageuse. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment en moi. Avec ce besoin, je dis pas que c'est forcément une qualité, hein, je ne sais pas, mais c'est un constat, ce besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe, de découvrir et de rencontrer l'altérité finalement.
Mmh. Et ce trail d'ailleurs n'était pas votre première grande aventure, hein, je l'évoquais en introduction, donc vous êtes pilote de ligne, et après avoir parcouru ces 9 millions de kilomètres dans les airs, vous vous êtes dit, mais en fait je ne voyage pas vraiment, alors vous êtes lancé dans un périple incroyable, vous êtes parti de Canton en Chine, vous avez suivi au plus près la ligne aérienne que vous aviez empruntée pendant des années comme pilote pour rejoindre à vélo, cette fois, Paris. Ça vous a pris 8 mois. Vous avez pédalé à travers les steppes kazakhs, le désert de Gobi, le plateau tibétain. Ça, c'était votre première grande aventure pour éprouver le terrain.
Voilà, complètement. Ben, c'est vrai que j'ai parcouru le monde sans le voir, c'est ce que je disais. Et finalement, le pendant de la démocratisation du transport aérien, c'est d'une certaine manière une dévalorisation du voyage. J'entends de la valeur symbolique du voyage. Et donc, cette façon de voyager à vélo ou à pied, c'est une manière de me réapproprier cette dimension-là. En même temps, d'éprouver les distances, d'éprouver l'espace. Mais aussi, quand on avance et que chaque kilomètre, on le gratte à la force des mollets, ça représente une gratification qui est énorme.
Ouais. Voilà. Alors, la force des mollets, là, c'était à vélo, hein, cette première grande aventure en 2010. Cette fois-ci, vous y allez encore à la force des mollets, vous partez en marchant, mais aussi en courant hein, pour cette traversée de l'Himalaya. Vous faites partie des adeptes de la course en montagne. Pourquoi la course? Quel sentiment cela vous procure?
Il y a le sentiment d'être vivant déjà, d'être extrêmement vivant quand on court, parce que tous les sens sont en alerte, on ressent son cœur de manière un peu plus forte. Après, un des autres éléments, c'est qu'il y a un côté ludique dans la course en montagne. Il y a le côté un peu trajectoire, un peu comme un pilote qui essaye d'optimiser sa trajectoire. Eh bien, quand on court en montagne, c'est pareil. Il faut s'adapter au terrain, il faut essayer de trouver où on place ses pieds. Il y a une question de lecture, il y a l'intention de fluidité. Et donc tout ça, c'est un peu comme un jeu finalement.
Ouais. Alors le fait de courir, ça implique de voyager très léger. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce petit sac à dos dont vous vous étiez imposé qu'il ne dépasse pas les 9 kilos sans l'eau et la nourriture?
Voilà, c'est ça. 9 kilos maximum. Bah, j'avais vraiment le strict minimum pour pouvoir bivouaquer en montagne, être un peu autonome. Donc quelques vêtements, un duvet de montagne, j'avais pas de tente, un matelas, pour servir aussi d'isolant. J'avais de quoi m'orienter, un petit peu de technologie, on va dire, hein, parce que j'avais pas amené de papier. Donc c'est vrai que je me reposais beaucoup sur mon téléphone portable, où j'avais de la lecture, où je pouvais téléphoner à ma famille, ça c'était sympa de temps en temps. Et puis où j'avais également
le GPS pour pouvoir vous positionner, géolocaliser.
Voilà, c'est ça. Alors encore que le GPS c'est utile. Si on a un fond de carte, Mais c'est vrai que quand le sentier qu'on suit n'est pas sur la carte, finalement, le GPS ne sert pas à grand-chose. Mmh. C'est pour ça que je me suis perdu quand même pas mal de fois.
Ouais.
Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, on aiguise ses sens. Et que plus le temps passe, plus on comprend comment se structurent les itinéraires, qu'à tel endroit, on risque de se paumer, et à tel autre, ça passe par là. Et donc, voilà, il y a une acuité. C'est l'intérêt de ce genre d'expérience.
Et puis, il suffit parfois d'une journée, vous le dites, d'une journée un peu plus difficile que les autres, pour transformer l'essentiel en superflu. Toujours au sujet de ce qu'il y a dans votre sac, c'est-à-dire que parfois, c'est au gramme près. Vous aviez, par exemple, emporté une petite cordelette pour étendre votre linge. Elle fait 20 grammes, cette cordelette. Après une journée difficile, vous vous dites « je n'ai pas besoin du tout de cette cordelette oui, ». Vous apprenez à évacuer de plus en plus de ce monde de consommation qui vous impose tous ces objets.
C'est ça, on gratte, on pense avoir atteint la croûte, et puis en fait, dessous, il y en a encore à enlever. Parce que c'est vrai qu'il y a des journées extrêmement intenses, hein, donc voilà, on a besoin de s'alléger, effectivement. Mais moi, j'étais... plus que dans une recherche de performance, dans une recherche de légèreté. La légèreté, c'est aussi la fluidité.
François Suchel, pour cette traversée de l'Himalaya, vous avez gravi 105 000 mètres de dénivelé, vous avez franchi 22 cols de plus de 4 000 mètres et fait de nombreuses rencontres. Vous allez nous raconter votre périple. François Suchel nous emmène bivouaquer entre Dharamsala et Katmandou en Himalaya cet après-midi sur France Inter.
T'en sais rien, oh, t'en sais rien. Jusqu'où tiendra le mirage, l'illusion que tout va bien. Mais t'en sais rien, oh t'en sais rien. Tu souris comme une image, est-ce au diable ou au saint. Le faux comme une flèche qu'on décoche. Blesse ceux qui tenteraient une approche. Mais jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit, d'ici on ne voit, d'ici on ne voit rien. Tu en joues, tu en joues. Des ombres chinoises, des nuits à crier au loup. Tu t'en fous, tu t'en fous. Pleine et l'ardoise, le dupe c'est toi avant tout. Le faux comme une flèche qu'on blesse ceux qui tenteraient une approche. Mais jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. Jusqu'ici tout va bien.
C'était Clou, jusqu'ici tout va bien.
Daniel Fievé sur France Inter.
Notre invité, François Suchel, publie « Liberté, foulée, fraternité » aux éditions Glénat, le récit d'un trail de 2500 kilomètres à travers l'Himalaya. Et ce que l'on entend là, derrière nous, c'est une cérémonie à laquelle vous avez assisté dans la première partie de votre voyage, François Suchel. Où avez-vous assisté exactement à cette cérémonie bouddhiste ?
Alors ça, c'est le Jinchak, c'était dans le village de Pournay, qui est un petit village du Zanskar. où je suis arrivé par hasard, et c'est vrai que moi j'adore les fruits du hasard. Je suis arrivé ce jour-là où il y avait le trois moines du monastère de Pouctal, qui est pas très loin, et qui faisaient une cérémonie pour favoriser les moissons. Donc les villageois avaient amené des denrées, des lentilles, de l'orge, des denrées précieuses, du beurre, etc. Et avec tout un tas de mantras, d'incantations, et ils versent ces denrées dans un foyer qui crée avec des bouses de yak séché, et ils mettent le feu à tout ça, ils l'alimentent avec de l'huile, et on va, j'imagine, chercher les esprits et pour favoriser les moissons à venir.
Ouais. Vous vous intéressiez à cette philosophie bouddhiste en entreprenant ce voyage. Qu'est-ce qui vous intéressait?
Plein de choses. Alors bon, ce côté un peu folklorique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais il y a l'impermanence, cette notion que rien ne dure et que donc il faut pas apporter trop d'importance à l'ego, par exemple. Il y a beaucoup de choses dans notre vie qui peuvent être motivées par le pouvoir de l'ego, et les bouddhistes nous apprennent que c'est pas forcément un bon motif d'action. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ce qui n'empêche pas d'entreprendre des choses, mais faire des choses parce qu'on les trouve intéressantes et que ça nous enrichit, c'est un bon motif d'action. Mais le faire pour se valoriser, se mettre en avant, et voilà, ça, c'est un peu inutile, parce que dans 5 ans, dans 50 ans, dans 5000 ans, tout ça aura disparu.
C'est intéressant parce que ça vous pousse aussi à vous interroger sur le sens de l'aventure que vous êtes en train de mener. Est-ce que vous le faites pour vous? Est-ce que vous le faites pour le regard des autres?
Bien sûr.
Que c'est l'exploit dans l'œil des autres que vous cherchez, ou est-ce que c'est essayez de prouver des choses?
Voilà, tout à fait. Non, il y a forcément une interrogation aussi sur soi-même, évidemment. J'ai la réponse à tout ça. Moi, je suis épris de, comme je le disais tout à l'heure, de voyage, du goût, de la découverte, de découvrir l'altérité. Et c'est un moyen qui est juste pour moi pour le faire. Après, quelque chose qui est d'intéressant aussi, c'est l'aspect méditatif. La force de l'instant présent, essayer de se concentrer, et notamment la marche et la course à pied, c'est un excellent moyen pour être en prise directe avec ce qu'il y a autour de nous, avec son corps déjà, parce qu'on essaie d'être à l'écoute de son corps, de prendre attention aux petites zones qui peut-être nous font mal. Moi, j'essayais souvent de me focaliser sur ces zones-là, envoyer mon flux sanguin plein d'oxygène pour essayer de bien les oxygéner. Et puis, on est en pleine prise avec tous les sons qu'il y a autour, la couleur du ciel, la couleur des pierres. Tiens, comment coule cette rivière à cet endroit-là? Il y avait des bouillons tout à l'heure, puis là, elle est très calme. Donc, tout ça, c'est un exercice, on va dire, de prise avec l'instant présent.
Vous avez le sentiment, parfois, quand vous courez, d'être en train de méditer sans vraiment l'avoir décidé, sans vraiment le vouloir?
Oui, je sens parfois, alors c'est pas toujours le cas, c'est un peu comme des vases communicants. Quand l'effort physique est trop intense, le champ de notre attention se réduit parce que tout notre corps est monopolisé par cet effort. Mais il arrive aussi qu'on soit dans un équilibre, en fait, avec son environnement. On verse de la sueur et des calories, mais l'environnement nous renvoie aussi son énergie. Et donc, quand on est dans cet équilibre, oui, ça se rapproche, je pense, un peu de la méditation.
Alors, au fur et à mesure de votre parcours, votre corps se transforme, parce qu'effectivement, c'est un effort physique très, très dur, même s'il faut apprendre à le doser. Et vous dites que vous n'avez plus que la peau sur les muscles, vous êtes très sec, comme on dit, mais vous ne vous êtes jamais senti aussi en forme.
Oui, voilà, il y a une photo que j'avais postée, parce que bon, il y avait des gens qui me suivaient un petit peu, évidemment, ma famille et des amis, et qui avaient suscité un peu l'émoi, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup maigri. Mais je pense que le corps humain est plus, à l'aise avec la privation qu'avec l'excès. Et en fait, moi, personnellement, je me sentais extrêmement en forme. Je ne me suis jamais senti aussi en forme que pendant ce voyage. Et d'ailleurs, c'est aussi l'un des intérêts de cet effort dans lequel je m'inscris. Je pense que l'effort est une valeur à valoriser, l'effort physique notamment, et l'effort intellectuel aussi. Et ce qui me fascine, c'est à quel point le corps est adaptable, en fait. Il s'habitue très vite au canapé, si on se met dans un canapé, mais si on le met en mouvement, il s'habitue également très vite au mouvement. C'est assez extraordinaire de constater qu'en faisant un effort répété, il devient de plus en plus facile. Alors, c'est pas, il y a toujours cette notion d'effort qui est présente, mais le corps s'y habitue et ça devient une seconde nature. Et ça me fascine toujours.
Alors, toute cette première partie du voyage, vous l'avez effectuée en solitaire. Hein, mm-hmm. C'était une difficulté. Comment vous avez vécu cette solitude, surtout dans le début, là, sur cette zone du Ladakh où vous étiez vraiment coupé du monde. Hein.
Oui, il y avait des zones très isolées où pendant plusieurs jours, j'ai vu personne. Non, pour moi, c'est vraiment plus de l'exaltation. D'abord parce que on se découvre soi-même, on est en compagnie de soi-même, et c'est vrai que pour être bien avec les autres, c'est important d'être bien avec soi-même d'abord. Ouais. Ensuite, ben, quand on est tout seul, on est aussi très ouvert sur ce qui se passe autour, sur les rencontres et sur les autres, plus que quand on voyage en couple ou avec un ami, où là, il y a une interaction avec une autre personne.
Ça vous est arrivé, hein, des rencontres, justement, à un moment où vous êtes un peu pressé, vous envisagez une étape un peu lointaine, donc vous pressez encore plus le pas que d'habitude, et vous apercevez, vous entendez le bruit d'une clochette, vous apercevez des nomades, et là, c'est l'appel de la rencontre.
Oui, tout à fait.
Il n'y a plus que ça qui compte.
Ben oui, c'est ça, c'était le switch entre l'idée de, je m'étais dit, cette longue journée sur le Rupchu pour rejoindre un lac d'altitude qui s'appelle le Tsomori, qui est un endroit absolument merveilleux. Et je m'étais dit, je vais rejoindre ce village, essayer de faire toute cette étape, quitte à marcher la moitié de la nuit, parce que j'avais envie de rejoindre ce village et j'espérais pouvoir parler un petit peu à ma famille, parce que ça faisait 11 jours que j'avais pas eu de contact. Et puis là, un peu avant le coucher du soleil, effectivement, il y a cette rencontre qui se dessine. Et là, en un quart de seconde, je me dis, bah, je vais dormir là ce soir. C'était une évidence. Je suis quand même toujours disponible à ce qui se présente, quitte à changer mes plans. Et il faut avoir cette disponibilité quand même.
Et qu'est-ce que vous a apporté cette rencontre ?
Bah, c'est une rencontre très, très simple. Ce que ça m'apporte, c'est que les gens qui vivent sur ces hauts plateaux, pour eux, le passage d'un étranger comme moi, c'est probablement à peine une surprise. C'est dans la nature des choses, puisque c'est des nomades, et que finalement, quelqu'un qui passe et qui va rester là de manière très fugitive, et ils savent très bien qu'il va repartir le lendemain et qu'on se reverra peut-être plus jamais. Mais la rencontre se simplifie en fait à ce que nous avons en commun, d'être des êtres humains, de devoir subvenir à nos besoins pour manger, pour dormir. Et voilà, moi c'est ça que j'aime, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'échange tarabiscoté, c'est l'échange réduit à sa plus simple expression.
Alors vous n'êtes pas resté seul pendant les 3 mois, hein, on l'a dit. Vous avez effectué une partie du voyage avec votre femme Marianne, qui est venue vous rejoindre. Cela change beaucoup de choses dans la façon de voyager, de ne plus être seul.
Oui, bien sûr, ça change déjà le rythme, parce que quand on est seul, on n'écoute que son propre rythme. Et évidemment, quand on voyage avec quelqu'un d'autre, ben, il faut se tourner vers l'autre, sur les besoins de l'autre, le rythme de l'autre.
Alors, vous êtes passé par des endroits où les sentiers sont moins marqués avec votre épouse Marianne. Alors, votre mantra à vous, pourtant, c'était « Jamais tu ne chemineras hors du sentier ». Et pourtant, je laisse le soin à votre femme Marianne de raconter.
Putain, je fais le montagnard, moi.
En partant pour le Saas Tratal, qui est à 4600 mètres, après avoir passé un col, on va se perdre, on perd le sentier et on va se tromper de vallée.
Tu te tiens aux arbres, aux racines, hein.
C'est pas le bon plan.
Marianne, mets-toi face au rocher, t'es sur le côté, là. Il y a un passage, c'est un peu chaud, hein. Non, on n'a pas le choix, Marianne. Au-dessus, ça va être... Viens voir. Là, il y a un petit passage qui a été tracé par des animaux, je pense, mais... Et puis après, il y a ce couloir, où, à mon avis, c'est relativement faisable. Et après, on traverse. Allez, attends, je fais une petite pause. Je vais aller voir pour voir si ça craint ou pas.
Ok. Alors, votre femme Marianne est à bout de force. Il faut dire qu'elle était quand même entraînée, hein. C'est-à-dire que c'est elle-même qui vous a mis au trail, hein. C'est une adepte de ces courses en montagne, hein. Donc, elle n'était pas avec vous par hasard. Vous êtes perdu à ce moment-là. On sent qu'effectivement, le corps lâche, le mental aussi. Dans quel état d'esprit vous étiez-vous ?
Moi, déjà, j'étais dans l'état d'esprit de me dire, bon, faut qu'on trouve une issue quand même. Parce que c'est vrai que il n'y a pas mort d'homme, hein. On était perdu, certes, mais on allait se retrouver. J'avais pas trop d'inquiétude là-dessus. Mais par contre, on devait être déjà à notre 10e ou 11e heure d'effort. On avait passé plusieurs cols au-dessus de 4000. Donc c'est vrai qu'au niveau ressources énergétiques, on était un peu fatigué. Et puis surtout, on était dans un endroit un peu scabreux. C'est vrai que en Himalaya, les pentes sont vite extrêmement vertigineuses. Et quand on perd le sentier, on ne sait pas trop où mènent ces vallées qui peuvent se terminer par une falaise qu'on ne peut pas passer. Donc évidemment, la solution, c'est de rebrousser chemin, de refaire l'itinéraire en arrière et puis de voir là où on s'est trompé. Mais on va vite dans un entonnoir parce qu'on est fatigué, on veut pas revenir en arrière, donc on continue à avancer et plus on avance, plus on se met dans la mouise.
Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que ça révèle aussi une façon de prendre les décisions en couple. Et pourtant, vous êtes un couple qui dure, solide depuis plus de 20 ans. Et là, vous en êtes à vous ajuster sur la façon de prendre les décisions entre vous. On a l'impression que vous vous découvrez dans cette nouvelle situation.
Ben oui, parce que c'est vrai qu'un couple, surtout un vieux couple, si j'ose dire, comme le nôtre, on prend des habitudes de fonctionnement dans le quotidien, on va dire. Et c'est vrai que moi, en plus, étant pilote, pour ce qui est de l'orientation, Marianne me faisait confiance. Elle se disait, si c'est pas ouvert, c'est pas moi qui vais lui dire où on va aller. Donc en fait, elle s'était complètement confiée à moi là-dessus, alors qu'en fait, il y a eu d'autres fois où elle avait observé qu'on prenait une direction qui n'était pas forcément la bonne, elle en avait vu une autre, mais elle n'osait pas forcément l'exprimer parce qu'elle était dans ce schéma-là. Ouais. Et donc l'intérêt de ce voyage pour nous, c'est de questionner ses positionnements. Et effectivement, à certains moments, je lui ai dit, mais si tu as des doutes, tu sais, il faut que tu les exprimes, que tu les dises, parce que ça c'est peut-être toi qui vas avoir raison et nous permettre d'avancer.
La fin de l'aventure, vous la vivrez avec un ami. Vous allez nous raconter comment s'est passée la suite de votre périple.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac, Daniel Fievé.
c'était Feel Good, Polo et Pan.
Chaque matin, on récupère le lait des chèvres et des brebis. Quand on a beaucoup de lait, ça nous rend heureuses.
En bas dans les villes, ce n'est pas la montagne, n'est pas toujours propre. Là-bas, quand les gens se lèvent le matin, ils ont l'esprit lourd. La personne qui nous voit pour la première fois peut nous trouver sales. Mais à l'intérieur, nous avons une grande fraîcheur et notre esprit est léger et joyeux. Il y a des gens qui sont riches et qui ont beaucoup de choses. Mais moi, franchement, je préfère être ici, au Dolpo.
Nous voilà donc arrivés au Népal, plus précisément dans la région du Dolpo. François Suchel, vous êtes passé par cette région dans la dernière partie de votre trail de 2500 km en Himalaya. Vous avez croisé des bergères semblables à celles que l'on vient d'entendre, qui vivaient simplement mais manifestement heureuses.
Oui, bien sûr. Il y a dans cette région, et je pense, comme elle le dit très bien, ils ont l'esprit léger et joyeux. Nous, on se surcharge de tas de biens matériels, mais qui finissent par nous ensevelir sous des tas de contraintes, sous des tas de désirs. Et eux, ils mettent en application leur philosophie bouddhiste, c'est-à-dire qu'ils se contentent de ce qu'ils ont. Ouais. Et du coup, ils ont peut-être plus de facilité, finalement, à être bien là où ils sont, avec ce qu'ils ont.
Ouais. Alors, ce voyage, vous, on l'a compris, vous a permis de tester la légèreté. Il vous a aussi permis de tester différentes configurations de voyage, puisque vous avez commencé en solitaire, ensuite en couple, et vous avez terminé avec un ami, Nicolas. Quelle était la configuration qui vous a le plus plu?
Alors là, je vais pas trancher, c'est la question à 2 euros.
Alors peut-être celle que vous appréhendiez le plus.
Non, sincèrement, il n'y avait pas de configuration que j'appréhendais. J'ai aimé les trois. J'avais envie de vivre ces trois expériences. Et chacune était intéressante, était géniale pour différentes raisons. Mm-hmm. Voilà, le voyage en solitaire, on doit prendre toutes les décisions tout seul. C'est extrêmement exaltant et gratifiant parce que on est entièrement responsable de ce qui advient. Le voyage en couple, ça nous permet de continuer à explorer notre couple, de sortir de notre quotidien, de se redécouvrir. Et puis le voyage avec un ami, là, il y a un côté un peu plus, on se challenge un petit peu. Voilà, il y a ce côté un peu jeu de deux gars qui aiment bien courir, qui ont bien la caisse, qui sont entraînés et qui donc vont se tirer un peu la bourre pour avancer.
Ouais. Avec Nicolas, vous êtes passé par des étapes vraiment longues. Hein. Vous avez tenté même des 60 kilomètres en une journée dans des zones absolument désertiques, en tout cas dépeuplées.
En altitude surtout. Ouais. Oui, parce que là, 60 kilomètres, c'était une étape qu'on avait envisagée pour passer du Dolpo au Mustang, en passant par un col qui s'appelle le Gemila. Donc, 60 kilomètres en soi, c'est tout à fait faisable. Mais avec des cols à 5007, ça devient quand même plus compliqué sur un terrain qu'on connaît pas en plus. Et voilà, ça, c'est une journée mémorable qui a été vraiment, comme le dit Nico, de la pure aventure.
Ouais. Décrivez-nous le lieu déjà, qu'on s'y retrouve.
Le lieu, on part de Sharkabot, qui est un petit village du Dolpo, qui déjà en soi est complètement surréaliste, où il y a deux, trois bâtisses comme ça, et où on dort dans une petite chambre à côté d'un Tibétain. Il doit geler dans la chambre, mais lui, il a les pieds qui dépassent de la couette, les pieds nus, hein, bien sûr. Et puis, on se lève à 2h du matin pour prendre la route et remonter cette vallée dans la nuit. Et ensuite, on découvre un paysage de haute vallée. Donc, il faut imaginer une sensation un petit peu presque lunaire, avec une lumière extrêmement pure et vraiment des paysages démesurés. On a débarqué après ce col dans une vallée qui faisait 15 km de long sans quasiment perte d'altitude. Donc 15 km à 5000 mètres comme ça, avec des sommets et des bouts de glaciers qui dégringolaient à droite à gauche.
Et vous, alors, vous couriez à ce moment-là dans ce décor?
Non, là on ne court pas. Il faut quand même être réaliste. La course, c'est dans des phases où on est soit en descente, soit sur du plat, mais en dessous de 3500 mètres. Au-delà de 3500, 4000 mètres, on ne court plus. Par contre, c'est vrai qu'on est dans une dynamique où on avance quand même, comme on a bien la caisse, qu'on est très entraîné, on avance vite, mais on ne court pas à 5000 mètres.
Vous avez été saisi par le contraste hein, entre les vallées désertes parfois, et puis des zones beaucoup plus touristiques dans lesquelles vous arriviez, au niveau notamment des massifs, des Annapurna.
Oui, complètement. Alors c'est vrai que quand on arrive au Mustang, on change vraiment d'univers, hein, quand on vient de l'ouest. Avant, c'est des régions qui sont beaucoup moins influencées par le tourisme occidental. Et puis à partir du Mustang, Annapurna et Manaslu, alors là, il y a des lodges, voilà, je dirais pas tous les 10 mètres, mais très régulièrement. Et puis surtout, comme l'a dit mon ami Nico, il disait en 500 kilomètres, on avait croisé 5 occidentaux. Et puis là, en 5 kilomètres, on en croise 500. Mmh. Voilà. Et donc, oui, on est frappé par l'influence du tourisme de masse. Qui fait que dans des villages, par exemple, comme Manang, il y a la partie tibétaine qui est restée à peu près authentique. Et puis juste à côté, c'est greffé un peu comme une verrue, un village occidental où on achète des pains au chocolat et où il y a des rooftops avec vue sur l'Annapurna. Et forcément, oui, ça nous questionne.
Ouais. Il y a encore un siècle, cette région était évidemment beaucoup moins fréquentée par les Occidentaux, en tout cas. Parmi les premiers à s'y être aventurés, il y a l'exploratrice Alexandra David-Neel. Elle a été, en 1924, la première femme occidentale à atteindre Lhasa, la capitale du Tibet. La voici racontant, longtemps après, l'un de ses périples en Himalaya.
Nous étions à pied et seuls, une provision, mais nous emportions un peu sur notre dos, matériel de campement, mais il n'y en avait pas. Nous nous abritions pour dormir au pied d'un arbre, sous un roc, selon ce que nous trouvions sur notre route. Allant à Lhasa, avec le lama Yongden, je m'étais mise en tête d'aller voir où la rivière qui traverse le pays de Pau prend sa source. Oh, je ne suis pas géographe, c'était une simple fantaisie. Pour arriver dans cette région, il nous fallait traverser la Dimula. L'altitude de ce col n'est pas exactement connue, ne figure pas sur les cartes. Cette région du Tibet n'avait pas encore été explorée. J'étais le premier voyageur blanc qui passait par là. L'altitude du col peut avoir 5000 mètres, 4800, quelque chose comme ça. Nous marchions un peu au hasard. Sachant que nous devions monter, eh bien nous montions. Enfin, la merveille se découvrit. Derrière une des crêtes s'étendait un immense plateau de neige, un plateau incliné qui montait doucement vers une nouvelle crête. Je crois que je n'ai jamais aussi profondément senti ma petitesse, la nullité de ma personne, que devant ce paysage d'aspect surhumain.
Alexandra David-Neel, en 1955, François Suchel, vous avez eu l'impression de ressentir parfois des sentiments proches de ceux décrits par Alexandra David-Neel, ce sentiment de se sentir tout petit devant cette immensité.
Ah oui, ça c'est sûr, de se sentir tout petit, oui. Après, bon, les voyages, nos voyages ne sont pas comparables, évidemment. C'est vraiment une figure de ouais. L'aventure, de l'exploration.
Vous l'aviez lu avant de partir, Alexandra?
Oui, oui, oui. Elle a fait tellement de choses. Peut-être le dénominateur commun, enfin, ce qui peut la résumer, c'est que c'était avant tout une grande voyageuse qui avait un fort tropisme asiatique. Mmh. Donc, sur ces points-là, je me retrouve, évidemment, parce que moi aussi, je suis très attiré par les régions d'Asie. Et forcément, je suis très admiratif de ce qu'elle a pu faire à cette époque où les conditions de voyage étaient autrement plus difficiles qu'aujourd'hui. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on a toujours un petit peu un fil à la patte qui ouais. nous relie au monde. Parfois, on a du mal à le couper. Alors voilà, on essaye d'allonger la laisse pour ouais. partir comme ça.
Ce téléphone portable que vous aviez ouais. avec vous.
Oui, en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut, grâce à ce genre de petites technologies, partir quand même seul dans des endroits très isolés. Ce qui était moins le cas des explorateurs auparavant, qui souvent se joignaient à des caravanes, voyageaient en groupe, avec des guides locaux parfois, et donc les conditions étaient très différentes.
Vous auriez aimé vivre à une période où des portions entières du monde restaient à découvrir pour les Occidentaux? Vous auriez aimé faire partie de cette aventure-là, François
Suchel? Oui, certainement, c'est sûr. Mais bon, après, on ne choisit pas son époque, donc dans une démarche bouddhiste, il faut accepter ce qu'on a aujourd'hui. On a une époque qui est aussi, pour certaines choses, formidable, pour beaucoup d'autres choses, moins.
Au fond, c'est pour ça que vous avez choisi d'être pilote de ligne. Vous rêviez encore de ces pionniers de l'aéropostale quand vous avez choisi.
Tout à fait. Il y a un peu de ça, voilà.
Après, il y a un peu de déception.
J'ai eu un peu de déception. C'est sûr, c'est peut-être pour ça que je me suis rendu compte qu'il me fallait retourner un peu sur terre. Mais oui, je pense que j'ai choisi ce métier sans vraiment le connaître et moins pour la machine, on va dire, que pour l'idée de voyage. Ouais. Encore une fois, l'idée de se projeter comme ça vers l'ailleurs. Mais quand même, malgré tout, même aujourd'hui, je trouve toujours magique. Il y a quelque chose d'un peu pas normal de pouvoir, en 10 heures comme ça, se retrouver en Inde. Tout ça, il y a un prix à payer qu'on est en train de commencer à payer. Mais l'avion reste un outil magique.
Ouais. On vous sent taraudé hein, sur ces questions, à la fois l'idée que c'est formidable de pouvoir voyager, mais qu'on devrait peut-être voyager plus intensément quand on le fait, moins souvent, mais au contraire de profiter vraiment du lieu quand on décide d'y aller.
Oui, complètement. C'est ce que je disais tout à l'heure, la valorisation, la valeur symbolique du voyage. Je pense que l'avion devrait coûter plus cher, qu'on devrait peut-être l'utiliser moins souvent, mais pour des expériences plus durables. Le gros avantage d'une expérience telle que je l'ai vécue, c'est que ça nous nourrit pendant des années.
Oui.
Même encore aujourd'hui, 3 ans après, j'y pense très souvent, en fermant les yeux, je revis des scènes de cette expérience.
Et alors, qu'est-ce qui vous en reste, justement, de ce voyage, 3 ans après, de ces 3 mois dans l'Himalaya ?
Alors, de l'émerveillement à chaque pas face à ces paysages grandioses qui étaient au-delà de toutes mes espérances. Par rapport à mon couple, je suis très heureux aussi que ma femme ait pu prendre certaines décisions qui lui sont propres et que ça lui a donné une telle confiance pour finalement se redynamiser un petit peu son parcours professionnel. Et puis moi, j'ai eu aussi cette opportunité d'écrire ce texte, de continuer un peu dans cette voie de création qui est aussi très enrichissante en fait. Vivre le voyage, c'est passionnant. Pouvoir le partager ensuite et donc le faire continuer à le faire vivre, ça aussi, ça me plaît beaucoup.
Il y aura d'autres projets d'aventure, d'autres voyages ?
Oui, il y en aura d'autres.
Vous savez déjà où ?
Non, pour l'instant, j'ai quelques idées, mais je sais que le prochain voyage, je ne prendrai pas l'avion.
Pour y aller ?
Pour y aller et pour revenir non plus. J'irai certainement en Asie, parce que c'est là que me porte ma géographie intérieure, mais je n'irai pas en avion.
D'accord. Donc un aller-retour en Asie,
voilà, avec
à cheval,
des moyens
à
de
pied,
transport,
à cheval, en vélo,
à pied,
on verra.
Solaire, je ne sais pas, en montgolfière, il y a plein d'idées.
Faudra venir nous le raconter. François Suchel, je rappelle le titre de votre livre, Liberté, foulée, fraternité, 2500 km de trail en Himalaya. Et dans un instant, justement, nous allons voir comment se dépayser sans aller très loin, sans quitter la France, avec Jean Typhon, auteur de Guide de voyage. Vous restez avec nous ?
Allez, c'est tout bon.
Le temps d'un bivouac.
To do your home.
C'était Coldplay, Trouble sur France Inter. La programmation musicale du Temps d'un Bivouac est signée Muriel Pérez.
Le Temps d'un Bivouac, Daniel Fievé sur France Inter.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli.
Et on va parler d'endroits qui ressemblent à la Louisiane ou à l'Italie, mais qui se trouvent en France. Avec vous, Jean Tiffon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur de guide de voyage et vous venez de publier avec Céline Fion et Natacha Penaud un ouvrage intitulé « Voir le monde sans quitter la France » aux éditions Hachette. Alors un ouvrage dans lequel vous présentez une cinquantaine de lieux en France qui évoquent l'ailleurs, des endroits qui se situent dans l'Hexagone mais qui peuvent donner l'impression qu'on est dans un autre pays, parfois très lointain. Par exemple, pour avoir une évocation de la Louisiane que l'on chantait à l'instant, vous nous proposez d'aller où ?
Je vous propose d'aller dans le Marais Poitevin, donc qui est à cheval entre trois départements français, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime et la Vendée.
Ouais, alors c'est un incroyable labyrinthe aquatique formé, quand on est du côté de la Louisiane, par des méandres du Mississippi. Là, c'est vraiment la même chose.
Oui, c'est...
Enfin, c'est pas le Mississippi.
Mais... Voilà, c'est pas le Mississippi, c'est plutôt la Sèvre niortaise principalement, mais il y a tout un réseau de canaux qu'on appelle des conches là-bas, et dans lesquels on peut parfaitement se perdre d'ailleurs. Hein. Il y a déjà eu des cas, bon, avec les téléphones, comme le disait votre invité précédent, c'est plus difficile aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a des paysages qui sont quand même assez proches de la Louisiane. Alors, il n'y a pas les grands cyprès américain, mais il y a tout un tas d'arbres vraiment spectaculaires qui poussent évidemment très bien avec ce climat très humide et qui se développent sans limite. Il y a des oiseaux en très grand nombre, comme en Louisiane. Il y a d'ailleurs un parc classé qui permet de les observer. Et puis tout l'ensemble du Marais Poitevin est classé comme parc naturel régional et également comme grand site de France. Donc il y a une mise en valeur de cet espace qui est vraiment importante.
Pas d'alligator non plus ?
Alors non, il n'y en a pas. Il y a des ragondins. Ouais. Je crois qu'il y en a aussi en Louisiane d'ailleurs. Enfin, c'est pas tout à fait le même genre, la même espèce, mais il y a aussi ce type d'animaux.
Et comment est né le Marais Poitevin ?
Alors le Marais Poitevin, c'est une construction humaine. Ouais. Il y avait un marais préexistant qui était la cause d'ailleurs de bien des maladies. Et c'est les rois de France qui ont fait appel à des ingénieurs d'origine hollandaise pour l'assainir et puis bon, le cultiver, le développer.
Et alors pour visiter ce Marais Poitevin, vous conseillez d'y aller entre avril et octobre. Donc pour les vacances de la Toussaint, c'est encore une bonne date pour aller...
Oui, c'est encore faisable. Alors il y aura en plus moins de monde qu'en plein été, ce qui est pas mal aussi. Et puis par exemple du côté de Coulon, qui est un petit peu la ville, disons, la plus connue du Marais Poitevin, vous avez des embarcadères qui vous permettent de le faire encore à cette saison. Moi, ce que je conseil, c'est surtout de monter sur une barque avec guide et vous allez apprendre des tas de choses sur cet écosystème très très intéressant.
Alors on surnomme le Marais Poitevin la Venise verte. Vous préférez la comparaison avec le Bayou en Louisiane, et ce n'est là qu'un exemple des 50 destinations que propose votre ouvrage pour se dépayser sans aller très loin. Autre exemple pour profiter d'un paysage proche de Minorque cette fois, donc au Baléares. Vous suggérez quelle destination en France ?
Alors la presque Île de Crozon, en Bretagne.
Ouais, donc on est à la pointe Finistère, là.
Oui, c'est ça, on est tout au bout de la Bretagne, dans un coin assez étonnant, parce que c'est vrai que la pointe du Raz n'est pas loin, donc on s'attend forcément à des paysages battus par les vents, etc. Et non, du côté de la presqu'île de Crozon, il y a une plage assez merveilleuse qui ressemble à la Méditerranée, avec des pins, un côté qui n'est pas courant en Bretagne, du moins dans ce coin-là du Finistère le plus à l'ouest.
Une eau plus froide, cependant.
Oui, alors là, je ne vais pas essayer de vous mentir. L'eau est un petit peu plus froide.
Ouais, on peut faire des randonnées, du canoë dans ce coin-là.
Tout à fait. Alors d'ailleurs, le meilleur moyen de voir cette côte qui est vraiment sublime, c'est sûrement d'embarquer sur l'un de ces canoës. On peut en louer dans toutes les localités du coin. Et vous avez comme ça un recul nécessaire et intéressant. Et puis, vous évitez le monde qu'il peut y avoir, par exemple, en été, sur le GR, donc le fameux sentier de randonnée qui suit toute la côte bretonne. Ça peut être un petit peu encombré au plus fort de la saison.
Une autre destination avec des airs de Toscane en Italie, donc, mais sauf que là, on est bien en France. Où est-ce que vous nous emmenez pour avoir un parfum de Toscane?
Alors, c'est du côté de l'Occitanie, du Gers, donc la région de l'Armagnac et de la Lomagne. De la même façon que tout à l'heure, il y a vraiment des similitudes étonnantes qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre à travers les photos qui sont vraiment saisissantes.
Oui. C'est bluffant avec les photos. Bluffant. Mais je pense que vous avez vraiment choisi les angles pour que ça fonctionne à merveille. Mais c'est vrai que c'est vraiment hyper ressemblant entre les régions que vous mettez en parallèle, les régions du monde avec les régions françaises.
Oui, tout à fait, même si ce n'est pas forcément tiré par les cheveux non plus. Il y avait vraiment une vraie ressemblance, on n'a pas trafiqué ou quoi que ce soit. Il y a vraiment quelque chose, mais il y a eu un travail sur ces photos, justement pour montrer qu'on pouvait vraiment être trompé presque par ces photos.
Autre exemple, vous prenez Cassis, le Cap Canaille à l'est de Cassis, et vous mettez ça en parallèle. Avec
Cape Town, en fait, la Table Mountain, l'une des villes principales d'Afrique du Sud, qui se trouve tout au sud, non loin du Cap de Bonne-Espérance.
Alors c'est assez réjouissant de voir à quel point les paysages de nos régions sont beaux et divers et nous permettent finalement ce dépaysement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce livre avec donc deux autres autrices, Céline Fion et Natacha Penaud ?
Eh bien, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment des questions sur le fait de prendre l'avion, de continuer à voyager, de réfléchir à notre impact sur la planète quand on voyage, même si évidemment un voyage comme l'a vécu votre invité sur les sommets himalayens, bon ben voilà, on pourra pas le faire en France.
Ouais. Mais... François Suchel, qu'est-ce que vous pensez donc de cette idée, on l'a compris, c'est l'idée de ne partir pas loin parce qu'on n'en a pas le budget, parce qu'on n'en a pas envie de polluer trop la planète. Alors vous, le pilote de ligne, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de se dépayser proche de chez nous?
Ah ouais, c'est bien, c'est une bonne idée. Après, il y a le step suivant qui consiste à voyager sur son canapé, dans les livres, où l'on se déplace plus du tout. Mais non, je trouve l'idée est marrante. Et c'est vrai que souvent, d'ailleurs, quand on se déplace en France, et qu'on a, comme moi, eu la chance quand même de pas mal voyager, on constate effectivement qu'il y a beaucoup de paysages qui nous évoquent le lointain. Donc c'est tout à fait vrai.
D'ailleurs, dans le livre, Jean Typhon, pour évoquer le Tibet, vous proposez une destination qui se trouve en Savoie, l'Institut Karmaling. François Suchel, vous qui venez de ce coin-là, vous connaissez.
Oui, je connais, bien sûr. C'est connu dans nos régions. Et je sais qu'on y pratique même des retraites de 3 ans, 3 mois et 3 jours. Ouais. Donc bon, je ne vais pas le faire tout de suite, je ne voudrais pas fâcher ma femme.
Vous y êtes déjà rendu ? L'aspect ressemble effectivement à un temple tibétain ?
Oui, complètement. Il y a une stupa qui...
C'est quoi une stupa ?
C'est ces monuments bouddhistes, en fait, qui sont des constructions comme ça, autour desquelles on tend les drapeaux à prière. Ouais. Et c'est un peu comme nous, on a des croix, eux, ils ont les stupas et les drapeaux à prière.
Ouais. D'ailleurs, donc, les drapeaux à prière, lors de votre voyage, dans votre sac, on a dit tout était vraiment pesé au gramme près, mais vous aviez quand même justement ces drapeaux pour, à chaque rencontre, avoir un petit mot des gens.
Écrire des messages de fraternité et qui évoquent aussi le lien qui nous unit tous. Et donc, oui, c'était 50 grammes superflus, mais pour rien au monde, je les aurais enlevés de mon sac, puisque c'était un petit peu le symbole, finalement, de notre lien à tous.
Merci, François Suchel. Alors, on trouvera dans votre ouvrage, Jean Typhon, bien d'autres exemples pour se dépayser sans avoir besoin de passeport ni de visa. Les Gorges du Verdon qui évoquent les Philippines, un coin de l'Anjou qui rappelle le Japon, ou encore les Terres Rouges en Aveyron qui font penser à celles de Madagascar. Tout cela est à découvrir dans votre livre « Voir le monde sans quitter la France » aux éditions Hachette. Merci Jean Typhon.
Merci.
Et merci François Suchel. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Liberté, foulée, fraternité » aux éditions Glénat. Toutes les références des ouvrages sont sur franceinter.fr. Vous pouvez aussi nous rendre visite sur notre page Facebook. Tous les épisodes du Temps d'un Bivouac depuis la rentrée sont disponibles en podcast. À samedi prochain pour de nouvelles aventures. Dans un instant, vous aurez le plaisir de retrouver Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin.